Chapitre 11, où l'on voit le mage Cagliostro jouer un rôle plutôt étrange. La jolie danseuse, tout en restant cruellement meurtrie, n'eut pas, en rentrant chez elle, la crise de désespoir à laquelle elle se fut certainement laissée aller si elle n'avait pas rencontré l'appui moral de Nono Manette. Elle se déshabilla et se coucha tranquille, cherchant le sommeil. Comme il ne venait pas tout de suite, elle se remémora les conseils de sa camarade et elle fut obligée de convenir qu'ils étaient remplis de bon sens. Malgré tout, elle se disait « Est-ce qu'on commande à son cœur ? Serais-je assez forte pour chasser de moi le souvenir de celui qui, sans le vouloir, s'en est emparé tout entier ?» Tout d'abord, elle se dit « Non, ce sera impossible !» Et de nouvelles larmes jaillirent de ses yeux. Puis, insensiblement, tout d'abord floues, imprécises, puis se dessinant, se précisant avec plus d'honnêteté, la pensée qu'elle était aimée par un être digne d'elle, ayant l'âme haute pour lui dissimuler le sentiment qu'elle lui avait inspiré, la saisit, l'empoigna, avec une telle force progressive, mais irrésistible, que bientôt son esprit se concentra sur elle. Elle se dit « Peut-être ce pauvre garçon souffre-t-il que je ne l'aime pas autant que je souffre moi-même de ne pas être aimée ainsi par Jacques ?» Et elle soupira « Comme il doit être malheureux !» Alors, elle qui avait recueilli les demi-révélations de Nono Manette avec une indifférence presque complète, se prit à se demander quel était celui qui l'aimait ainsi. Déjà, elle savait que ce n'était pas un cabot, mais un véritable artiste. Elle en connaissait quelques-uns, des compositeurs notoires qui étaient venus la prier, la supplier même, d'interpréter quelques fragments de leurs œuvres dans son nouveau numéro. Des auteurs dramatiques qui lui apportaient chaque jour des sketchs qu'ils avaient tout spécialement écrits pour elle. Des peintres qui lui offraient de faire son portrait, des sculpteurs dont l'un, membre de l'Institut, aspirait à modeler son buste. Et les silhouettes de tous ces hommes passaient dans sa mémoire sans qu'elle puisse arrêter à l'un d'elles et de dire « Oh, ça doit être celui-là ». Dans son désarroi, au milieu de la tempête morale qui la bouleversait, la pauvre petite ne songeait même pas au seuil à qui, après les confidences que lui avait faites Nono Manette, elle aurait dû penser, Jacques Beaunier. Mais ce pur artiste, ce véritable poète musical, était de ceux qui ont la pudeur de leurs sentiments et qui, dans leur instinctive et noble fierté, se gardent de tout aveu tant qu'ils n'ont pas la certitude qu'ils ont des chances d'être favorablement accueillis. Prévenu par Nono Manette que le cœur de Marquita était déjà pris, il en avait éprouvé un profond chagrin intime, et il avait été assez fort pour ne pas le faire voir à personne, et encore moins à la principale intéressée. Il avait continué à la faire travailler, avec le même zèle, la même ardeur, que si elle était toujours pour lui une interprète de premier ordre. Mais ni dans ses regards, ni dans ses paroles, il n'avait apporté le moindre de ces nuances qui suffisent pour faire comprendre que l'amour est en jeu. Voilà pourquoi Marquita se perdait en conjectures. N'était-ce pas déjà pour Nono Manette une grande victoire que d'être arrivé à ce que la bohémienne occupât ainsi son esprit, en une recherche qui donnait à croire que son chagrin n'était pas inguérissable. Toujours est-il que Marquita, lasse de s'acharner à la solution d'une énigme qui apparaissait indéchiffrable, finit par s'endormir et même par reposer paisiblement jusqu'au lendemain matin, et lorsque sa petite femme de chambre, Lucienne, s'en vint, comme chaque jour, la réveiller vers 9 heures, elle reposait encore. Lucienne s'excusa de l'avoir éveillée. Mademoiselle, fit-elle, peut-être faire la grâce matinée. Oh, que mademoiselle m'excuse. Mademoiselle ne m'avait pas prévenue. Oh, si j'avais su, je ne l'aurais pas réveillée. Lucienne, soit dit entre parenthèses, était une brave petite fille, une vraie parigote du faubourg Saint-Martin, qui désirait faire du music-hall et qui, avec le but de s'y faufiler un jour, était entrée au service de la nouvelle vedette. Son service était loin d'être parfait, mais elle était si pleine de bonnes intentions, et elle professait pour la nouvelle étoile du Moulin Rouge une admiration si sincère que Marquita, si peu habituée jusqu'alors à ce que l'on eût des attentions pour elle, se déclarait enchantée de sa gentille petite bonne. Aussi, lui répondit-elle avec bienveillance, « Oh non, Lucienne, ne vous tourmentez pas ainsi. Vous avez très bien fait, au contraire, de me réveiller. Car c'est mauvais de trop dormir, on s'alourdit, on s'empâte, et moi cela m'est défendu. »« Je comprends, » déclarait Lucienne, en déposant sur une table le plateau sur lequel elle avait apporté le petit déjeuner ainsi que la correspondance. Et elle ajouta, « Maintenant, je peux bien le dire, madame, mademoiselle, j'ai eu très peur. »« Peur et pourquoi ?»« Bien, toujours, lorsque j'entre le matin dans la chambre, mademoiselle est réveillée et même debout. »« Eh bien, lorsque j'ai vu mademoiselle étendue dans son lit, sans bouger, vous avez cru que j'étais morte ?» sourit mélancoliquement la danseuse. « Oh non, 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 mais j'ai simplement pensé que mademoiselle était souffrante. »« Et vous vous êtes trompée, Lucienne. »« Je le vois bien, » reconnaissait la femme de chambre. « Je trouve même que mademoiselle a meilleure mine que d'habitude. » Et tout en aidant Marquita à passer le peignoir, que, tout en parlant, elle avait déjà la recherché sur une chaise, elle ajouta, Oh, si mademoiselle savait combien cela m'ennuie lorsque je la vois triste. Pourtant, mademoiselle a tout pour être heureuse. » La bohémienne ne répondit pas et elle se dirigea vers la table. Lucienne voulut elle-même lui verser le thé, mais Marquita lui dit, « Ne te donne pas cette peine, Lucienne. Tout à l'heure, je vous appellerai. » La femme de chambre s'en fut tout en se disant, C'est tout de même malheureux qu'une jolie femme comme elle n'ait pas d'amant. Oh, moi, si j'étais à sa place, j'aurais déjà mon hôtel particulier, mon auto et au moins une maison de campagne autour du cou. » Marquita, distraitement, prit un toast et le mangea du bout d'élan. Ensuite, elle avala quelques gorgées de thé. Puis, elle dirigea son regard vers les quelques lettres qui s'étalaient sur le plateau. Elle en prit une négligemment et l'ouvrit sans hâte et en parcourut quelques lignes. C'était une proposition d'engagement que lui adressait le directeur du casino de Deauville. Elle n'y prêta aucune attention, bien qu'elle fût très brillante. Son esprit était ailleurs, et s'éveillant pour la première fois depuis longtemps et de longues semaines, ce n'était pas vers Guervais que sa pensée s'était envolée, mais vers cet énigmatique amoureux dont la veille au soir Nono Manette lui avait révélé l'existence. Et elle recommença à dresser dans sa mémoire la liste des véritables artistes avec lesquels elle avait été en rapport, omettant toujours d'y ajouter Jean Bonnier, tout en se livrant à cette récapitulation inutile, mais qui, tout au moins, avait pour résultat de l'arracher momentanément à la tristesse que lui causait son amour déçu, elle continuait à décacheter son courrier, sans accorder d'ailleurs plus d'importance aux autres lettres qu'à la première. La dernière, cependant, sembla l'intéresser. Elle s'y arrêta davantage, et au lieu de la rejeter comme les autres sur la table, elle la garda étalée devant elle pour la relire une seconde fois. Voilà ce qu'elle disait. « Mademoiselle, ayant eu l'autre soir l'honneur et le plaisir de vous applaudir, il m'a semblé découvrir en vous certains signes particuliers qui ont immédiatement éveillé ma sympathique et respectueuse curiosité. Peut-être mon nom ne vous est-il pas entièrement inconnu. Je suis le mage Cagliostro, auquel, tout récemment encore, l'éminent professeur Jean Vattard consacrait, dans la Revue des sciences et découvertes modernes, un article que je me permets de joindre à ces quelques mots, et je vous prie de bien vouloir en prendre connaissance, car il vous prouvera que je ne suis pas de ces charlatans débitant des mensonges, exploiteurs de la superstition et de la bêtise humaine, mais au contraire un homme qui voit, qui sait et qui veut. Je crois que, dis-je, je suis sûr que j'ai à vous faire certaines communications qui ne manqueront pas de vous être, je le crois, extrêmement intéressantes. Sur votre passé d'abord, ensuite sur votre présent, et enfin sur votre avenir. Je tiens à vous dire tout de suite, afin de bien vous prouver ma loyauté absolue, que les consultations que je vous offre seront absolument gratuites. Je tiens à vous dire qu'il est indispensable que je vous voie le plus rapidement possible. Je suis chez moi tous les jours de 14 à 15 heures. Veuillez me téléphoner. Auteuil 2749, afin de m'annoncer votre visite, et soyez sûr que je serai charmé de connaître personnellement la merveilleuse artiste que vous êtes. Agréez, mademoiselle, mes plus respectueux hommages. Mage Cagliostro. Marquita s'empara ensuite de la découpure de journal que le devin avait jointe à sa lettre. Elle contenait un éloge dithyrambique du sorcier de la rue de Charralard, et se terminait par ces lignes. J'ai passé de bons instants avec cet homme extraordinaire qui dissimule sous le nom de Cagliostro la personnalité de l'un des plus grands savants du monde entier. J'ai assisté à un certain nombre de ses expériences sur les sujets qui viennent de consulter. Toutes, sans exception, ont été rigoureusement concluantes. Cagliostro, apôtre d'une science trop méconnue, qui a pour but de sonder l'au-delà et qui, malgré les violentes attaques auxquelles elle a été en butte, a cependant donné d'inattaquables résultats, l'a élargie, développée et transformée de telle sorte que, d'une méthode basée jusque-là sur l'empirisme et par conséquent tâtonnante et sujette à l'erreur, il en a fait presque une des sciences exactes bâties sur les axiomes que nul ne s'aviserait de discuter. Quand je devrais me faire insulter par les incrédules ou par toute la cohorte de ces matérialistes qui veulent que tout commence et que tout finisse avec nous, et qui redit de parti pris tout ce qui s'éloigne de leur réalisme grossier, j'affirme que Cagliostro n'est nullement l'aventurier que prétendent ces messieurs, mais un savant génial, doublé d'un grand honnête homme. Marquita n'avait pas besoin de ce certificat donné au mage par le professeur Vattard, dont elle ignorait entièrement le nom jusqu'à ce jour, et qui d'ailleurs passait parmi ses confrères pour être quelque peu ralenti, pour se décider à se rendre chez Cagliostro. D'abord, qui sait s'il n'avait pas découvert le secret de sa naissance? Et puis, sans doute, il lui révélerait le nom de celui qu'il aimait dans l'ombre. Élevée dans ce milieu de bohémiens superstitieux, elle ne pouvait être forcément que très crédule. La vieille Tina avait exercé sur elle, dès son enfance, une sorte d'influence mystique qui la prédisposait à prêter une oreille complaisante à quiconque lui fait la même proposition que Cagliostro. Aussi n'hésita-t-elle pas longtemps à s'emparer de son téléphone et à demander le numéro du mage. Ce fut Acab qui lui répondit. Conformément aux instructions que lui avait données son maître, il répondit à la danseuse que le mage Cagliostro l'attendait le jour même à 2 heures de l'après-midi. Il lui recommanda d'être très exact, la journée du maître étant très chargée. Alors, dites, Marquita, qui portait déjà avec beaucoup de chic sa toilette de Parisienne, pénétrait dans l'hôtel de la rue de Rennes-Lagg. Elle fut accueillie avec la même cérémoniale qui avait accueilli Marie-Thérèse Couervée. Elle n'en fut d'ailleurs nullement impressionnée, et ce fut avec ce calme parfait que lui inspirait sa confiance en celui qui l'avait appelée, qu'elle pénétra dans le cabinet du consultation. Très accueillant, très gentleman, Cagliostro s'avançait vers elle en disant: Je suis vraiment très touché que vous soyez venu me voir aussi promptement. J'espère, mademoiselle, que vous n'aurez pas à regretter l'empressement que vous avez mis à me rendre visite. Il la fit asseoir dans le fauteuil placé devant la table de travail, et il s'en fut se placer de l'autre côté en face d'elle. Marquita ne se sentait nullement intimidée. L'aspect physique de Cagliostro et son accueil, tout de simplicité bienveillante, grandissaient la confiance que d'avance elle était décidée à lui accorder. Le mage, qui se rendait parfaitement compte de l'état d'esprit de sa cliente, en parut très satisfait. Mademoiselle, dit-il, vous êtes l'un des plus extraordinaires sujets qu'il m'ait été donné de rencontrer. Je me sens déjà en communication directe avec vous. C'est même extraordinaire ce que je vois déjà. Voulez-vous me permettre de vous fixer bien dans les yeux? Mais oui, monsieur. Alors, je vous demanderai surtout de ne pas fuir mon regard. Il est indispensable que nos deux pôles magnétiques demeurent quelques instants en contact direct, absolu, si vous voulez que l'expérience réussisse dans toute son ampleur. Et je vous assure qu'elle en vaut la peine. Vous pouvez me regarder, monsieur, répliqua Margaret. Je ne baisserai pas les yeux. En effet, sans baisser, sans même remuer les paupières, elle soutint pendant près d'une minute l'éclat du véritable sunlight qu'était le regard du devin. C'est bien, dit-il, je suis content, très content. Maintenant, vous n'avez plus qu'à m'écouter. Vous voyez que ce n'était pas bien long. En effet, approuvait Marquita, aussi éblouie que si elle avait reçu en plein visage le faisceau lumineux d'un puissant projecteur. Cagliostro attendit un instant qu'elle se fût remise. Et dès que ses paupières eurent cessé de papilloter, il reprit. Bien que j'aie déjà, chère mademoiselle, des révélations très intéressantes à vous faire, ne vous attendez pas que dès notre première entrevue, elles soient complètes et surtout décisives. Il faudra que vous reveniez me voir une ou plusieurs fois avant que je sois fixé, notamment sur vos origines. Mais je reviendrai tant que cela sera nécessaire, déclarait la danseuse. Le devin reprenait. Cependant, dès aujourd'hui, je vais pouvoir vous dire des choses intéressantes. Ainsi, j'ai la certitude absolue que vous êtes de sang royal. Moi? Oui, vous. Voilà quant au passé. Mais pour l'avenir, j'ai mieux à vous dire encore. Vraiment? Écoutez-moi bien et surtout n'allez pas croire un seul instant que j'ai cherché à me moquer de vous ou que je m'égare dans des chimères. Et gravement, Cagliostro scanda. Un jour, vous serez reine. Contrairement à son attente, la jeune fille ne parut pas surprise de cette prédiction formidable. Elle se contenta de murmurer. Oui, Tina me l'avait prédit un jour, mais je n'avais pas cru. Tina, déclarait le mage, qui semblait connaître à fond l'existence de la bohémienne, qui vous a pour ainsi dire élevée. Oui, maître, mais vous l'avez connue? Non, mais son âme rôde autour de vous. Elle était méchante. Oui, mais il vous faut lui pardonner. Car c'est elle qui détient le secret de votre naissance. Et elle vient de me souffler à l'oreille que vous n'étiez pas bohémienne, mais fille de roi. Il n'y a qu'elle qui puisse vous dire toute la vérité. Je lui pardonne, fit Marquita. Cagliostro reprit. Alors elle reviendra bientôt, et cette fois elle me dira tout. Maintenant, reprenait le mage, occupons-nous un peu du présent. Volontiers, acceptait la pauvre petite. D'un ton plein de compassion, le mage reprenait. Vous êtes très malheureuse, n'est-ce pas, ma petite? Marquita reprenait. À quoi bon vous le cacher, puisque vous savez tout? Oui, je sais même pourquoi, répliquait Cagliostro. Vous aimez sans espoir de retour à un jeune artiste nommé Jacques Gervais. C'est vrai, reconnaissait Marquita, subjuguée par son interlocuteur, qu'elle considérait de plus en plus comme un être surnaturel. Ma chère enfant, poursuivait ce dernier, je vais certainement vous porter un coup terrible, mais je n'ai pas le droit de vous dissimuler la vérité, ni vous laisser circonvenir par des espérances qui ne sauraient se réaliser. Et avec force, il martela, il faut, vous m'entendez, il faut à tout prix que vous oubliez ce jeune homme. C'est ce que me disait hier ma camarade Nonomanette, déclarait Marquita d'une voix tremblante. Eh bien, elle faisait preuve aussi d'une rare clairvoyance, déclarait le devin. Alors, interrogeait timidement la jolie danseuse, il ne m'aimera jamais. Hélas, non. Mon Dieu! Fit la bohémienne blonde en se cachant la tête entre les mains. Cagliostro la regarda pendant un instant, puis, se levant, il s'enfuit vers elle, et tout en posant doucement sa main sur son épaule, il fit: Je sais que vous êtes la plus honnête fille qui se puisse imaginer, et que jamais vous ne vous êtes laissée aller à cette griserie des sens si fréquente dans les milieux où vous vivez. Vous voulez être un homme, mais un seul.
Oui.
Eh bien, ma chère enfant, est-ce à votre âge qu'un cœur doit désespérer parce qu'il a été arrêté dans son premier élan? Ce Jacques Gervais vous a fait vivre, j'en conviens, un véritable conte de fées. Il vous a libéré de la servitude dans laquelle vous viviez et de la tyrannie de ces brutes qui avaient fait de vous leur souffre-douleur, leur esclave. Il vous a fait vivre un véritable conte de fées. Il était fatal que vous considériez en lui le prince charmant, chère petite belle au bois dormant, qui n'avait pas sommeillé pendant des siècles, mais dont l'âme n'a commencé véritablement à réveiller qu'au contact de ce beau et charmant garçon. Mais il est à une autre, qu'il aime et dont il est plus aimé qu'on ne pourrait le croire. Vous n'êtes pas de celles qui se complaisent à briser un ménage. Quand bien même le désireriez-vous, vous n'y parviendriez pas. Oui, je suis cruel de vous parler ainsi, mais j'aime mieux vous faire souffrir très fort, tout d'un coup, que de me taire et encourager par mon silence ce rêve qui ne sera jamais réalisé. Peut-être en ce moment me maudissez-vous. Non, affirmait Marquita. Je vous écoute en souffrant, mais je vous crois, et je vous remercie puisque c'est pour mon bien que vous me parlez ainsi. Je suis satisfait que vous soyez aussi raisonnable. D'ailleurs, si le présent est pour vous très douloureux, j'ai maintenant la joie de vous annoncer que votre avenir vous réserve, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, mieux que des compensations aux sacrifices que vous devez vous imposer, mais une récompense magnifique à l'abnégation dont vous allez faire preuve en renonçant à Gervais. Mais est-il possible? Fit Marquita un peu troublée. C'est bien que possible, déclarait le mage, c'est certain. Quand je vous disais il n'y a qu'un instant que Jacques Gervais aimait sa femme d'un si grand amour que, quelles que soient les heurts que la vie réserve aux humains, il ne connaît jamais la défaillance, vous vous êtes dit en songeant à votre rivale, oh, qu'elle est heureuse. Oui, c'est vrai. Et vous vous demandez, saura-t-elle apprécier son bonheur? Oh, comme vous lisez bien en moi. Je n'ai pas grand mérite, votre âme est si claire. Et c'est ce qui va me permettre de vous définir. Vous êtes une grande amoureuse, mais une amoureuse qui veut, avant tout, être aimée. C'est juste. Et maintenant, s'animait Cagliostro, j'en arrive au moment où il va m'être enfin donné d'apaiser les larmes que j'ai obligé de faire couler. Et d'un ton d'une douceur pleine de gravité, le mage articula. « Vous êtes aimé, mon enfant, comme vous êtes digne de l'être. » Marquita tressaillit. « Qu'avez-vous ? » demanda le mage. Aussitôt la jeune fille reprit. « Ben, c'est ce qui m'a été dit hier par mon ami Nomanette. » Cagliostro réprima un léger mouvement de mécontentement. Puis, toujours avec la même affectueuse bonhomie, il demanda « Vous a-t-elle dit son nom ?»«
Elle n'a pas voulu, » répliqua la danseuse, « car il paraît que c'est un secret. Elle m'a simplement dit que c'était un grand artiste. Alors j'ai cherché parmi tous ceux que je connaissais, et je n'ai pas trouvé. »
Un homme parfaitement sûr de lui, le devin reprit « Votre ami Nonomanette, sans doute, afin d'en profiter, vous a induit en erreur. Vous êtes aimé non pas par un artiste célèbre, mais par un véritable grand seigneur. Oh, je n'éprouve aucune difficulté à vous le nommer, à la condition que vous engagiez formellement à ne le répéter à personne, pas même à Nonomanette, ce que je vais vous dire.
Je vous le promets, acquiesçait la jeune fille.
Et elle ajouta, contemplant avec ferveur l'homme surnaturel,
« Moi qui n'ai jamais manqué de parole à quelqu'un, comment serais-je capable de ne pas tenir celle que vous m'avez demandée ?»«
Je suis tranquille, » affirmait Cagliostro. Et lentement, presque solennellement, il fit, « Celui qui vous aime n'est autre que le comte Willis Hermat, dont la femme, qui était devenue folle à la suite d'un grave accident d'automobile, s'est suicidée il y a 3 mois environ en se jetant dans une rivière aux environs de Marais, en Seine-et-Marne. Vous dire qu'il n'a pas été très peiné de la disparition tragique de cette malheureuse serait aussi faux que si je vous affirmais qu'il a été violemment bouleversé. Leur mariage avait été avant tout un mariage de convenance. Le cœur n'était pas en jeu. Voilà pourquoi le comte Zermatt, en voyant votre portrait dans un journal, s'est tout de suite intéressé à vous. Il a voulu vous connaître. Malgré son grand œil, il s'est rendu camouflé au Moulin Rouge. Et vous avez exercé sur lui une telle attirance qu'il n'a pu résister au désir d'y retourner plusieurs fois. Et actuellement, il est tellement épris de vous qu'il est résolu à vous épouser. Marquita n'en croyait pas ses oreilles. Il lui semblait que c'était un nouveau conte de fées qu'elle était en train de vivre. Spontanément, poussée par une curiosité qui n'était qu'à demi satisfaite, elle s'écria
« Est-ce lui qui vous a fait ses confidences, ou bien... est-ce vous qui avez deviné tout cela ?»
Avec une assurance parfaite, Cagliostro répondait « Je pourrais vous dire que le don de double vue que je possède a suffi pour pénétrer le mystère de votre cœur et le sien. Mais ce serait en dehors de la vérité. Je n'ai jamais permis à un mensonge d'effleurer ma bouche. » Et avec franchise, il scanda. « Mais le comte Zermatt est venu il y a quelques jours me demander une consultation à votre sujet. Je lui avais demandé, ainsi que j'en ai l'habitude, de m'apporter 2 lignes de votre écriture et un objet qui vous est appartenu. Vous avez dû recevoir le lendemain la visite d'un journaliste qui vous demandait de lui donner un autographe afin de le faire reproduire dans le Comédia.
Ah oui, je m'en souviens parfaitement.
Le soir même, votre habilleuse remettait à comte Zermatt une petite lime à ongles qu'elle avait dérobée dans votre loge. Je devais vous la rendre et je vous demande de ne pas gronder cette pauvre femme.
Oh, cela n'en vaut vraiment pas la peine, déclarait Marquita.
Cagliostro répliquait, Je n'attendrai pas moins de votre bon sens. » Je continue. Muni de ces deux objets qui me suffirent amplement, l'un l'autographe pour connaître entièrement votre caractère, l'autre pour établir entre votre pensée et la mienne une véritable correspondance dont seul j'étais capable de recueillir les résultats, il me fut très facile de tout deviner. Mais c'est prodigieux! Ne croyez pas cela, faisait le mage. Oh, je vous assure qu'il était beaucoup plus difficile de découvrir la TSF que d'utiliser le nom de W qui existait en moi depuis ma naissance. Mais j'abrège. Bref, par les avertissements que vous m'avez envoyés, sans que vous vous en doutiez, et par ceux que, mentalement ou moralement, j'avais reçus du comte Zermatt, j'avais établi deux premiers faits absolus. Le premier, que vous aimez Jacques Gervé, le second, que Zermatt vous aimait. Alors, j'ai sondé l'avenir. J'ai regardé devant moi, et mon regard n'a pas eu besoin de se porter sur de lointains horizons. Il s'est arrêté tout de suite, presque au premier plan du paysage. Et savez-vous ce que j'ai vu dans un adorable décor de pure féerie? Deux êtres, tout de beauté et de jeunesse, qui s'étreignaient longuement. L'un était le comte Zermatt, l'autre était vous. Et sans donner à la jolie danseuse le temps de lui répliquer, Cagliostro poursuivait. Quoique vous vous en défendiez encore, vous allez bientôt vous apercevoir, et c'est là déjà presque fait, que l'amour que vous portiez à Gervé était seulement fait de reconnaissance et d'amitié. Mais lorsque vous vous serez trouvé en face de l'autre, lorsque vous aurez senti son regard vous envelopper de sa caresse, sa voix harmonieuse vibrer à vos oreilles, vous l'aimerez autant qu'il vous adore. Et c'est celui-là qui sera l'homme de votre vie. Ainsi, ma chère enfant, ne le repoussez pas s'il vient frapper à votre porte. Accueillez-le au contraire comme le messager du bonheur. Ne retardez pas le cours d'un destin qui doit vous emporter tous les deux vers les sommets radieux et magnifiques. Cagliostro avait terminé son discours avec un accent tellement inspiré, tellement sincère, que Marquita, lui prenant les mains, s'écriait littéralement envoûtée par ce mage qui dégageait une force puissante à laquelle il était impossible de résister. « Jacques Hervé m'avait sauvé des bohémiens, vous me sauvez du désespoir. Oui, dans Jacques, je ne veux plus voir désormais qu'un frère, et en vous. » Elle s'arrêta, confuse, rougissante. Et Cagliostro compléta en embrassant au front celle qu'il cherchait à lancer dans les bras de l'aventurier que nous connaissons. « Vous pouvez dire un père !»